Alors j'ai remarqué depuis peu, là, depuis que vous êtes arrivé à la yeshiva, qu'il y a un sujet qui angoisse la plupart des jeunes à la yeshiva. C'est le sujet de la parnassa. La parnassa, on est tous à la yeshiva, on veut tous rentrer dans le monde du travail, certains veulent faire des études, d'autres veulent directement travailler. Et ils se disent, mais c'est bien beau, on étudie la Torah, mais il faut assurer demain, il faut qu'on aille travailler. Après essayer de comprendre ce sujet, on va essayer de parler de la ishtadlut. Pourquoi sommes-nous obligés de faire la ishtadlut? Alors vous allez me demander, qu'est-ce que c'est la ishtadlut? Alors on va traduire par, déjà dans un premier temps par effort. Un effort qu'on doit réaliser pour obtenir quelque chose. Alors vous savez que la ishtadlut, là on va parler de la parnassa, mais en fin de compte la ishtadlut concerne tous les domaines de la vie. Par exemple, je veux me marier, je dois faire ma ishtadlut. Je dois trouver un travail, bien entendu, je dois faire mes ishtadlut. Qu'est-ce qu'il y a comme sujet encore? On doit faire ishtadlut. Partir en guerre, on doit faire sa ishtadlut. Guérir, on doit faire sa ishtadlut, etc., etc. Maintenant, on va savoir, avant de parler pourquoi Kadosh Baruch Hu nous demande de faire ishtadlut, on va essayer maintenant de définir, dans un premier temps, le bitachon. Bitachon qu'on traduirait par la sécurité en Hachem. Alors, on a le Chazon Ish qui nous donne une définition. Je n'ai pas réussi à retrouver le livre. Néanmoins, j'avais noté auparavant qu'est-ce qu'il nous disait. Alors, voilà la définition du Chazon Ish au sujet du Bitachon. Il nous dit c'est la croyance que rien ne se produit par hasard dans le monde. Et tout ce qui est accompli sous le soleil, Tachat HaShemesh, est la volonté du Créateur. Donc, par conséquent, un homme doit intégrer dans sa vie que tout, mais absolument tout, vient d'Akadosh Baruch Hu. Si je suis intelligent, ça vient d'Hachem. Si je suis beau, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Si j'ai des enfants, ça vient d'Hachem. Si j'ai une parnassa, ça vient aussi d'Hachem. Maintenant, le problème, c'est que Akadosh Baruch Hu, d'un autre côté, nous demande de faire un effort. Alors, le souci, c'est que si je dois faire un effort, a priori, ça cache ce que fait Akadosh Baruch Hu. Et même, on se dirait que si maintenant ça vient d'Hachem, je vais avoir un certain scepticisme vis-à-vis de mes actions. Est-ce que ça vient d'Hachem ou ça vient de moi? Donc pourquoi Kadosh Baruch Hu veut qu'on accomplisse la Ishtadlut? Vous avez compris la question ou pas, elle est claire? Alors, on a le Chovot HaLevavot qui nous ramène dans le Shar HaBitachon que je conseille de lire, il existe en français. Là-bas, c'est le char, les portes donc, du Bitachon, où là-bas, il parle comment un homme doit avoir une confiance absolue en Akadosh Baruch Hu. Et il nous dit comme ça. « Kemo she'en beyad aberuim chayav umuto vecholio briyoto » Que de même que dans la main de l'homme, il n'y a pas la vie ni la mort. Ce n'est pas lui qui décide de la vie ou de la mort. « Vecholio briyoto » Et qui décide aussi de ses maladies et de sa santé. Qui en beyadam teref mezono vesipoku le bouchou le char ignané gufo. Et qu'il n'y a pas dans la main de l'homme aussi tout ce qui concerne sa tenue vestimentaire, se nourrir et tout ce qui concerne la vie de tous les jours. Veim berur emunato kinyanu masur el gzerat abore it ale veshe bechirat abore lo hi abechirat tova u chayav lit galgel isibot oto la otav velifchor hatov kanire. Si maintenant, à partir du moment où il est sûr que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, qu'il ne vienne pas à son esprit de croire que j'ai besoin de rien faire, de toute façon tout vient d'Hachem. Pourquoi j'ai besoin maintenant de faire des efforts? J'ai besoin d'agir, que de toute façon même ce que je veux faire, mes ma'asim, avant ils ont été déjà décidés par Akadosh Baruch Hu. Alors quel intérêt que je fasse? Il dit non, tu dois faire tout ce qui est dans ton pouvoir, dans tes besoins, dans ta nécessité, pour recevoir ton dû au sujet de la parnassa à chaque fin du mois. Alors bien la question revient et se dire, mais je ne comprends pas, si tout vient d'Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu me donnes l'enfer ma ishtadlut? Et on sait, beaucoup d'entre nous est déjà parti travailler, c'est difficile de voir Hachem. On connaît le commercial qui avec son téléphone dit, aïe, j'ai fait un super contrat là. T'as rien fait mon pote, c'est Hachem qui a décidé. C'est difficile de réagir comme ça. Mais Akadosh Baruch Hu attend de nous, dans ces actes-là, quelque chose de bien précis. Et ça, c'est tout le sujet de notre cours. Pourquoi Akadosh Baruch Hu attend de nous notre Ishtadlut? Alors, le premier, qui... il y a beaucoup, beaucoup de réponses. On va essayer de prendre les grandes raisons majeures que les commentateurs nous donnent. Le premier qui a parlé de ça, c'est le Ramban. Le Ramban a parlé de ce sujet dans la parashat Noach. Noach, on connaît tous l'histoire de Noach. Noach vivait à une époque, une génération où tout le monde était des Rechaim. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est plus possible. On doit tout recommencer. Il est parti voir Noach. Noach, Ish, Tzadik, Bedorotav. Celui qui était Tzadik, l'homme droit dans sa génération. Et il lui a dit, écoute, tu as devant toi maintenant 100 ans ou 120 ans pour construire une arche, une tevat noire. L'arche de Noach. Et là-bas, le Rambam nous dit que l'arche, c'est la Torah qui nous dit, elle avait une taille de 300 coudées, qui représente 150 mètres, sur 150 coudées, sur 75 mètres. 150 mètres sur 75 mètres, construire sur 120 ans, là, je pense qu'il aura assez de temps pour la construire. Le Rambam se pose une question, il se dit, mais d'accord, il a construit ce paquebot, parce que ça représente moins un paquebot. Il dit, mais je ne comprends pas. Est-ce que c'est suffisant pour accueillir tout? Je dis bien tous les animaux qui existent dans le monde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a fait de la bio, peut-être avec ma sœur, mais à part de ça. Est-ce que quelqu'un sait combien il y a d'espèces animales dans le monde? Des milliards, je ne pense pas, mais il y a au moins des milliers et des milliers et des centaines de milliers d'espèces animales. Joyeux anniversaire. Il y a au moins des centaines et centaines d'espèces animales qui existent dans le monde. Alors le Rambam se dit, mais de toute façon, tu ne pourras jamais accueillir tous les animaux. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui demande de construire une teva et de cette grandeur? C'est vrai. Et le Rambam nous répond et nous dit qu'elle était faite de cette grandeur pour diminuer le miracle. Et il dit, le Ramban, il donne un klal, et je vous conseille d'aller le voir, qui dit que c'est la façon d'agir pour tous les miracles qu'il y a eu dans l'histoire du Tanakh, qui ont été faits par tous les prophètes. L'homme fait tout ce qu'il peut, et le reste est dans les mains d'Akadosh Baruch. Remarquez, Moshe Rabbeinu, il a levé la main pour ouvrir la mer. Je n'ai pas d'autres exemples en tête, mais tous les miracles qui ont été faits par les prophètes ont été réalisés par un maasé. Le Rambam nous dit pourquoi on a besoin de ce maasé, on a besoin de cette action-là. C'est pour cacher le miracle. Donc première réponse, c'est que maintenant un homme, quand il fait sa ishtadlout, c'est pour garder son libre arbitre. Pour dire que c'est vrai que ce maasé que je fais, ça n'a rien du tout, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui va me donner. Néanmoins, Akadosh Baruch Hu a créé un monde d'une telle manière qu'on doit agir de cette façon. Et remarquez, c'est que le monde a été créé avec certains principes et surtout par un système. On appelle ça le système de la nature. On sait que dans le monde, autour de nous, vous voyez comment le monde comme un extraordinaire, et bien tout existe que par des miracles. Akadosh Baruch Hu, tout le jour, nous fait des miracles pour faire exister ce monde. Et il nous dit que, de toute façon, même si maintenant il existe ce miracle-là, on doit déceler dans la nature qui est autour de nous Akadosh Baruch Hu. Et il ramène que le mot Elohim a la même gématria que Hateva. C'est quoi Hateva qui veut dire la nature? On sait que Hateva, c'est He, qui est 5, Tête, 9, Bet, 2 et Aïn, c'est 70, qui nous donne en tout 81 plus le Kolel, ça fait 82. Il nous dit que Elohim, pareil, Aleph, Lamed, He, Yud, Mem, ça nous donne aussi 82. Et en fin de compte, que même la nature, les principes de la nature, c'est Akadosh Baruch Hu. Et on peut prendre un exemple. On sait que pour ceux qui parlent hébreu, comment on dit une pièce de monnaie en hébreu? Matbea. Et on voit que la racine de Matbea, c'est Teva, la nature. En fin de compte, pour te dire, c'est qu'une pièce de monnaie, on sait qu'il y a un côté pile et un côté face. Et en fin de compte, Hachem, il te dit, regarde cette pièce-là. Cette pièce-là, c'est le côté que tu es en train de regarder. C'est la nature. Toi, maintenant, ton travail que tu as à faire dans ce monde-là, c'est retourner cette pièce et voir qu'en fin de compte, c'est Akadosh Baruch Hu qui tire les ficelles de ce monde. Donc la première réponse qu'on a au sujet de la Hishtadlout, c'est quoi? C'est qu'on fait la Hishtadlout pour cacher le miracle. Pour cacher et surtout dissimuler que c'est Akadosh Baruch Hu, en fin de compte, qui nous donne tout ce qu'il y a autour de nous, qui nous donne même le résultat de notre parnassa. Première réponse. Comment?
Pourquoi dissimuler?
Alors, premièrement, on a le Rambam qui nous dit que c'est de cette manière qu'on doit agir. Hachem, il a créé une nature, et cette nature-là, elle fonctionne d'une manière qu'on ne voit pas Hachem. Donc pareil, toi, quand tu vas agir tous les jours pour aller voir le médecin, pour aller ramasser ta parnassa chaque fin de mois, tu dois dissimuler le miracle. C'est vrai qu'en fin de compte, même si tu n'avais pas fait ce massé-là, cette action-là, tu aurais eu la parnassa. Mais Hachem, il te dit, c'est vrai, mais je ne peux pas te la donner tant que tu dissimules pas ce miracle. C'est une manière d'agir d'Hachem.
Mais l'ouverture de la mer, pourtant, c'est pas dissimulé.
On a dit que si, parce que Moshe a fait un acte pour créer après. C'est vrai que, en fin de compte, le résultat, on sait que c'est un miracle. La Torah nous le dit. Mais même que l'ouverture de la mer qui devait commencer par une action de Moshe Rabbeinu, dissimuler même un tout petit peu le miracle. C'est ce qu'on doit faire. Et ça s'appelle la Hishtadlout. Le Chovot et Levavot, lui, nous donne une autre raison au sujet de la Hishtadlout. C'est dans Sher Bitachon, pareil, dans le même Perek, Perek Dalet, qui nous dit « La Hishtadlout sert à vérifier notre conduite sur terre. Est-ce que nous agissons pour assouvir nos besoins et nos désirs ou, en fin de compte, nous faisons le jeu que demande Akadosh Baruch Hu ?» Et là, ça, c'est très difficile. En fin de compte, quand tous les jours, on va ramasser de l'argent, est-ce que je me dis, mais je ramasse l'argent pour ce que j'ai besoin pour vivre? Non, en fin de compte, je vais ramasser un petit peu parce que j'ai envie de kiffer, j'ai envie d'aller tous les jours au restaurant, j'ai envie de partir plus souvent en vacances, etc., etc. Et là, en fin de compte, il te dit le chovot et les vavot, c'est que je fais cette action, je fais cette ishtadlout pour maintenant savoir où j'en suis. On peut prendre l'exemple avec la chasse au trésor. Je pense que tout le monde a déjà joué à la chasse au trésor. On a des objets qui se cachent un peu partout, avec, et nous on a une liste, et qu'est-ce qu'on doit faire? C'est essayer de récupérer ces objets-là. Et on passe par certaines épreuves. Et nous on croit que c'est nos épreuves, c'est nos actions qui ont ramené le fait d'avoir cet objet-là. Mais on sait qu'il y a quelqu'un qui est venu qui a déposé tous ces objets-là. Il dit c'est pareil le chovot et les vavot. Hachem, il t'a déjà tout préparé. Tout ce que tu dois recevoir dans ce monde, c'est déjà décidé. Mais toi maintenant tu dois faire cette chasse au trésor, tu dois aller maintenant à la course, au trésor, à la faire certains, réaliser certains efforts pour ramasser le pactole, donc arriver à réunir tout ce qu'on te demande dans la liste. Donc là, on a la deuxième réponse. Donc tu as un peu ce que tu as voulu, c'est un peu ta question, c'est que Hachem ici, il te donne cette hishtadlout là comme tova, comme quelque chose de bien pour savoir où tu en es. Est-ce que tu sais que tout vient d'Hachem ou en fin de compte, non, là je suis en train d'aller dans mes propres désirs, propres besoins et j'oublie que tout vient d'Hachem. Troisième commentateur qui nous donne une réponse sur la Hishtadlout, c'est le Messilat Yesharim, qui a été écrit par le Ramchal, qui nous dit que la Hishtadlout est un impôt que l'homme doit s'efforcer à payer depuis la faute de qui? Du premier homme. Parce qu'il écrit dans la Torah, quoi? Bezat apecha tochal lechem, pas la sueur de ton front, tu mangeras ton pain. Et il dit que cet effort-là, c'est pas ce qui est essentiel. Plutôt, excusez-moi. Il dit comme ça que ce n'est pas l'effort qui est essentiel, mais c'est juste l'accomplissement. L'effort que tu fais, c'est juste pour payer ton impôt parce que tu étais dans le corps d'Adam Harishon, on descend tous d'Adam Harishon et il a fauté, mais non, il doit avoir son pain à la sueur de son front. Il doit payer, il doit passer par ce système-là. Et en fin de compte, c'est que ce système-là, il ne vient pas pour te dire maintenant que ça ne vient pas d'Hachem. C'est vadaï que tout vient d'Hachem. Mais tu dois suer, c'est le cas de le dire, pour recevoir ta parnassa. Mais comprendre que c'est un impôt. Il y a des gens qui aiment payer plus ce qu'on lui demande dans l'impôt, vadaï que non. Est-ce qu'il y a des hommes, excusez-moi, je vais peut-être reposer ma question, est-ce qu'il y a des hommes qui veulent payer plus que l'impôt leur demande? Bien sûr que non. Chacun paiera ce que l'impôt lui a noté. C'est clair ce que je dis ou pas? C'est pas très clair, non? C'est clair, d'accord. Donc, et on voit que, hélas, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que non, je dois faire être marmire dans mes impôts. C'est ce qu'on fait pour celui qui court tous les jours pour avoir une meilleure parnassa. Petite parenthèse, c'est que on voit que la Gemara dans Daf Nuntet, dans Baba Metzia, nous dit que celui qui honore sa femme, Hachem lui donnera toutes les brachot. Et dans ces brachot, il y a même la parnassa. Alors, je comprends pas. D'un côté, on sait qu'on doit payer cet impôt, et d'un autre côté, à cause de la faute d'Adam Harishon, mais d'un autre côté, on voit que celui qui honore sa femme, on lui enlève, entre guillemets, cet impôt-là. Pour quelle raison? J'ai jamais posé cette question-là. On voit que souvent, on dit, il faut honorer Bezrat Hashem, vous allez vous marier, honorer votre femme. Est-ce que c'est une manière de faire ses shtadlout? Ou pas? Eh bien, le Rav Shlomo Zalman Urbach, il dit que on sait que Adam Harishon a été puni d'avoir le pain à la sueur de son front. Et on sait que Chava aussi, elle a reçu une malédiction. C'est quoi? C'est d'être soumise à son mari. Rav Shlomo Zalman Urbach, il nous dit qu'un homme qui honore sa femme, qui la considère comme une reine, en fin de compte, il est en train d'annuler la malédiction qu'il a reçue d'Akash Boko. Et quand Hachem il y voit, il dit « Incroyable, regarde mon fils, il est prêt à annuler la malédiction que je lui ai donnée à ma fille. Eh bien, moi aussi, je vais lui annuler la malédiction qu'il a reçue de recevoir le pain à la sueur de son front. » Mida Keneged Mida. Donc maintenant, ici en conclusion, par rapport à notre première question, c'est que si on essaie de réunir toutes ces explications, c'est que d'un côté, c'est vrai que la Ishtadlut par logique, vous viendrez répondre à tous nos besoins. Mais d'un autre côté, croire que ces actes sont utiles, c'est une erreur, parce qu'on sait que tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, ici, on vient nous enseigner que la Ishtadlut vient créer le Koach HaBechira, vient ici de recréer le libre arbitre qu'Akadosh Baruch Hu a installé, a imposé dans ce monde-là. C'est que d'un côté, que tout vient d'Hachem, si on dit que tout vient d'Hachem, que tout n'est que miracle, on perd notre Koach HaBechira. On n'a plus maintenant le libre arbitre parce que tout vient d'Hachem. Mais d'un autre côté, si on agit, on fait notre Ishtadlut pour recevoir notre Parnassa, pour aller chez le médecin, etc., on va se dire, mais rien ne vient d'Hachem. Donc en fait, on va oublier Akadosh Baruch Hu. Alors, si maintenant Akadosh Baruch Hu, il nous a donné ces deux forces-là qui sont complètement opposées, c'est pour nous permettre d'avoir notre libre arbitre. Donc on a répondu à notre première question. La deuxième question maintenant, c'est quelle est la quantité de Ishtadlut? Il y a beaucoup de jeunes ici qui viennent me voir et qui me disent, mais regarde, j'ai envie d'étudier la Torah, mais d'un autre côté, je ne peux pas être avraire parce que j'ai besoin de quand même avoir ma parnassa. Mais d'un autre côté, est-ce que si j'étudie à mi-temps, c'est suffisant pour avoir ma parnassa, etc., etc. Bien entendu, on ne va pas répondre sur un pied à cette réponse. C'est que chacun, on appelle ça col micré les gouffos. C'est chacun selon sa personnalité, selon sa confiance en un Kadosh Baruch Hu. Mais on va essayer de donner des pistes. Alors, on ramène comme ça une histoire, peut-être une histoire pour essayer d'illustrer ce principe-là. Et bien, un jour, un admour, un rav de Chassidim, qui voyait un de ses élèves prier très tard le matin la tefila. Il est parti le voir, il lui dit, écoute, tu sais, mon fils, pas bien de se comporter de cette manière. Tu sais que la tefila, c'est quelque chose, c'est Icar, on doit se réveiller le matin, on fait ses brachot et on doit courir. Faire sa prière pour demander à Hachem, demander qu'il nous exauce tous nos souhaits. Et le chassid dit, bon, écoutez, Kvodar, je suis vraiment désolé, mais c'est comme ça qu'on fonctionne ma parnassa. Maintenant, moi, mon travail, c'est d'amener les enfants à l'école. Et parfois, j'ai beaucoup d'enfants, parfois, j'ai pas beaucoup d'enfants, parfois, il y a la circulation. Donc, ça dépend pas de moi à quelle heure je dois prier. Et parfois, il m'arrive de prier très tard. Je n'ai pas le choix, c'est comme ça que je gagne ma parnassa. L'admour le regarde dans les yeux et lui dit, écoute, regarde, je vais te raconter une histoire. Il y avait un jour, un pauvre homme qui décida avec sa femme que leur situation ne pouvait pas durer. Et ils ont décidé que lui devait partir à l'étranger, c'est ce qu'on faisait à l'époque, à l'étranger, pour essayer d'avoir une petite parnassa, un petit pactole, pour après revenir au bout d'un an et pour faire vivre sa famille, la femme et ses enfants. Donc ce pauvre homme, il est parti pendant un an travailler dur, 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 et il a ramassé un petit pactole. Sur le chemin du retour, c'était Erev Shabbat. Erev Shabbat, il s'arrête dans une auberge qui était bien entendu juive. Et là-bas, il pose ses affaires et l'aubergiste vient le voir et dit « Écoutez, regardez, j'ai vu que vous avez un petit pactole. Si vous voulez, moi je le garde, je le mets dans mon coffre. Au moins, vous êtes sûr que personne ne le vole. » Le pauvre homme, il dit « Mais c'est une super idée. Tenez, voilà mon petit pactole. » L'entrée de Shabbat, il commence à avoir une angoisse. Qu'est-ce que j'ai fait de laisser cet argent-là, cet homme-là? D'où je le connais? D'où je le connais, cet homme-là? Et le vendredi soir, il n'a pas réussi à manger. J'arrive pas à rentrer. Ça fait un an que je travaille pour avoir cet argent-là, toute ma parnassa, je vais tout perdre. La nuit, il n'arrivait pas à dormir. Le lendemain matin, il n'est pas réussi à prier. Et ça, comme ça, jusqu'à la sortie de Shabbat. Alors, celui de Shabbat, il court vers l'aubergiste, il dit donne-moi mon pactole. Il dit oh, attends, d'abord, on fait l'Avdala. Ils ont fait l'Avdala et l'aubergiste retourne, ouvre le coffre et lui tend l'argent. Qu'est-ce qu'il fait, le pauvre? Il ouvre son petit sachet, il commence à compter d'abord les pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, Hachem, tout est là. Il commence à compter les pièces d'argent. Tac, tac, tac. Tout est là. Il commence à compter les gros billets. Tac, tac, tac. Il commence à compter les petits billets. Jusqu'à compter les pièces de centimes. Là, l'aubergiste, il le regarde et dit, écoutez, je comprends que vous ne me faites pas confiance pour les pièces d'or, pour les pièces d'argent, pour les gros billets. Mais même pour des petites pièces, des pièces de centimes, des gros chimes, vous ne me faites pas confiance. Et là, c'est la même chose. L'Admor, il dit à son chassid, je ne comprends pas. Ta confiance en Akadosh Baruch Hu pour tous les matins qui te donnent la vie. Que tous tes membres fonctionnent. Que tu as toute ta famille autour de toi. Ta femme est là. Tes enfants. Que tout fonctionne à merveille. Tes yeux fonctionnent. Tes oreilles fonctionnent. Pour des pièces de centimes, tu n'as pas confiance en Hachem. Pour des gros chimes, est-ce que c'est difficile pour Hachem de donner une parnassa? Tous les jours, c'est que des miracles autour de toi. Juste pour ça, tu n'as pas confiance en Akadosh Baruch Hu. Et c'est vrai, on voit que beaucoup de gens en France, même dans le monde, je dirais, c'est difficile, même vous, on est angoissé, on a un peu grandi dans cette manière-là, c'est que, vas-y, il faut que tu donnes à fond, il faut que tu marches, sinon tu vas crever. Excusez-moi du terme, mais c'est la vérité, c'est comme ça qu'on a été éduqué. Alors, maintenant, pour essayer de voir, le cas extrême, c'est celui maintenant qui fait trop de ishtadlout. Alors, pour illustrer cette histoire-là, c'est quoi faire trop d'ishtadlout, on a un moussard qui est tiré de Novardok, le moussard de Novardok, qui illustre par une petite histoire. C'est un jour, il y avait un paysan, un pauvre paysan, qui, c'était la veille de Pessah, il n'avait pas de quoi faire ce qu'il faut pour Pessah. Et il savait que parfois, il avait de la famille qui l'envoyait par la poste, un petit peu d'argent, un peu de tzedaka pour vivre. Et donc, il était là en train de s'angoisser, jusqu'à qu'il voit de loin, au loin, le facteur. Il court vers le facteur et il voit que dans sa sacoche, il a une grosse enveloppe. Il prend l'enveloppe et il commence à courir. Il se cache et il tire l'enveloppe et il voit qu'il écrit son nom. La police qui était dans le coin l'arrive, l'attrape et le met en prison. Mais il dit, écoutez, regardez, c'est écrit mon nom, c'est écrit mon prénom. Vous voyez bien que c'est pour moi. Il dit, non, on l'a vu que tu l'as volé du facteur. En fin de compte, c'est vrai qu'il y avait de l'argent dedans, qu'il avait récupéré cet argent-là. Mais cet homme-là, il a fait peut-être un excès d'ishtadlout. Il a voulu faire plus que ce qu'il était demandé, ce qu'il a été souhaité. Vous avez compris l'histoire, j'espère, vous avez compris la parabole. Donc ça, c'est le cas extrême. Faire trop d'ishtadlout, c'est pas ce que demande Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en fin de compte, quand on fait trop, on oublie Hachem. On oublie que ça vient d'Akadosh Baruch Hu parce que tu dois, soi-disant, tu dois aider Hachem pour recevoir plus. C'est ce qu'il ramène comme ça. Il dit, le Chavetz Chaim, il compare ça à un homme qui est dans le train. Il est dans le train, dans un wagon, et il commence à pousser le wagon. Les gens lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, bah, je suis en train d'aider le wagon à aller plus vite. Le train, mais mon cher ami, ça ne sert à rien. Le train n'ira jamais plus vite. Tu peux même jusqu'à demain pousser. Le train, il va à une certaine vitesse. C'est pareil. Un homme, maintenant, qui fait sa ishtadlout, il doit se dire que, comme on l'a dit au début, je fais soit parce que c'est un impôt par rapport à la première faute de l'homme, soit c'est pour cacher le miracle, ou soit maintenant c'est un jeu. Je joue le jeu pour garder mon libre arbitre. Alors c'est ça, donc là on a vu le cas extrême, faire un excès de ishtadlout. Maintenant on a l'autre extrême, c'est quoi? C'est, on l'apprend du Baal Shem Tov. Il avait des talmidim, il leur apprenait la imuna, le bita, ils ont confiance en Hachem à l'extrême. Et on ramène qu'un jour un des élèves du Baal Shem Tov, il avait un problème de parnassa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un télim comme un bon juif religieux. Il a commencé à faire télim, télim, télim. Et après, il est sorti pour aller au Beit HaMidrash. Et sur la route, qu'est-ce qu'il rencontre? Qu'est-ce qu'il voit par terre? Il voit une pièce d'or. Dans la boue, il voit une pièce d'or. Il lève les yeux à Hachem, il dit, Hachem, est-ce que c'est mon kavod, est-ce que c'est mon honneur de faire à ce point la ishtadlout, de prendre une pierre dans la boue et la nettoyer? Et il laisse la pièce en or et il va au Beit HaMidrash pour étudier la Torah. Il s'assoit là-bas, il étudie, il y a un riche qui passe par là et il voit la pièce en or par terre. Il la prend, il la nettoie, il dit, bon, moi je suis riche, j'ai pas besoin de cette pièce en or. Il rentre dans le Beit HaMidrash et qu'est-ce qu'il fait? Il donne à cette personne-là. Donc on voit deux extrêmes dans l'ishtadlout, soit un excès, soit quelqu'un qui a une confiance absolue, absolue en Hachem. Et bon, Hachem, on voit autour de nous, on voit des gdolim qui ont vécu comme ça. Au Rami Zonenfeld, un jour, il y avait, c'est les voisins qui racontaient ça, et un jour, il y avait la mère, il dit, écoute, sa femme, plus excusez-moi, qui dit, Rabbi Chaim, on n'a plus rien à manger, on n'a plus de pain, fais quelque chose. Et il dit, bon, c'est l'heure de faire ma ishtadlout. Il sort dans la rue, il marche, comme ça, deux, trois rues, il se baisse, il ramasse une petite bourse. Et il retourne à la maison pour retourner étudier. C'est vrai qu'on n'est pas à ce niveau-là. On raconte que le Chazon Ish, à la sortie de Kippour, il sortait à l'extérieur, il faisait le tour du Beit HaMidrash, de l'extérieur, là-bas autour de, dans la ville, dans le, autour de l'endroit où il y avait le Beit HaMidrash, et il retournait dans le Beit HaMidrash. Il disait, voilà Hachem, j'ai fait ma Ishtadlout pour toute l'année. Donc voilà, c'est vadaï que nous, on n'est pas à cet extrême-là et on n'est pas aussi à l'autre extrême avec ce pauvre villageois qui est parti courir après la lettre. Maintenant, chacun d'entre nous doit se connaître. Bien entendu, plus vous êtes, vous étudiez la Torah, plus vous vous rapprochez d'Hachem et plus vous avez une confiance en Hachem plus forte. Donc chacun, comme je dis au début, tout à l'heure, comme il crée les gouffos, chacun doit s'asseoir avec son rave pour savoir combien je dois m'investir dans mon étude de Torah et combien je dois travailler pour recevoir ma parnassa. On continue maintenant dans notre sujet. Maintenant, il faut savoir que, comme on a dit, c'est pour chacun son niveau. Il y a beaucoup de gens, surtout quand ils arrivent à la yeshiva, ils pensent que ça y est, ils ont de confiance en Hachem, c'est bon, je suis prêt à tout. Je suis prêt à tout maintenant. Je peux étudier la Torah tranquillement, pas m'angoisser ce qui se passe à l'extérieur. Ma femme, je sais qu'elle va suffire de peu, mes enfants pareil, etc. On va à l'extrême. Et un jour, on ramène que Rabbi Chaim Rav Salanter, il avait un de ses élèves. Il lui a dit, écoute, regarde, moi, ma ishtadlout, c'est acheter un billet de loterie. Est-ce que toi, tu es prêt à acheter un billet de loterie? Et si tu as confiance en Hachem, tu sais que ce billet de loterie, tu vas le gagner. Il dit, ouais, je suis prêt à le faire. Donc, il est parti acheter un billet de loterie. La veille de la loterie, il envoie un de ses élèves, le Rav Salanter, auprès de celui qui a acheté ce billet de loterie. Il dit, écoute, regarde, le Rav, tu sais que tu vas gagner 1 000 000 demain. Il est prêt à t'acheter 500 000 roubles. Est-ce que tu es prêt à le vendre? L'autre, il dit, écoute, je préfère avoir 500 000 aujourd'hui que demain, hein, être pas sûr d'avoir 1 000 000 de roubles. Et là, il lui a dit, écoute, Rav Salanter, il dit, si tu es prêt maintenant à donner quelqu'un qui est sûr d'avoir 1 000 000 de roubles demain, c'est vadaï qu'il est jamais sera prêt à vendre son billet, même pour la moitié. Jamais, au grand jamais. Donc, faut savoir vraiment se connaître pour faire ça. Il faut savoir combien doser sa ishtadlout. Au Hachem, on a des rabbanim autour de nous qui peuvent nous aider à faire le bon choix. Maintenant, il faut savoir que l'Ishtadlout, c'est une mission. C'est réaliser ses objectifs spirituels. Et que même, on peut réaliser sa Ishtadlout par le biais du Limoud Torah. Étudier la Torah, c'est ce qui nous permet d'avoir la Ishtadlout. Et on ramène comme ça une autre histoire encore pour illustrer. C'est un jour, il y avait, ça s'est passé il y a quelques années, il y a quelqu'un, un avraire, qui est parti voir le Rav Kamenevski. Rav Kamenevski. Je lui dis, écoutez, Rav, ma situation est très difficile en ce moment. Et je ne sais pas, peut-être, c'est le moment d'aller travailler. Pour moi et ma femme et mes enfants, on voit que c'est difficile. Alors le Rav lui posa quelques questions. Comment tu fais? Combien d'enfants tu as? Est-ce que tu es propriétaire? Est-ce que ta femme travaille? Etc. etc. Et après toutes ces questions-là, le Rav Kamenevski dit, écoute, moi, je pense que tu peux continuer encore à étudier la Torah tranquillement. Et reviens me voir si vraiment ça devient encore plus difficile. L'avraire n'a pas écouté le Rav Kamenevski parce qu'on lui a proposé un travail où il gagnait très bien sa vie. Il dit, ça vaut le coup, je vais le tenter. Il est parti, il a commencé à rentrer ce travail-là et il voyait qu'il galérait plus qu'avant. Alors peut-être qu'au début, il s'est dit, peut-être que le Rav, vu que j'ai pas écouté le Rav, j'ai reçu une malédiction, j'ai pas écouté le Rav, donc à Kadosh Baruch Hu, il me punit. Il est parti voir, il dit, écoutez, Kvod HaRav, je suis vraiment désolé. regardez, je ne vous ai pas écouté, etc. Vraiment, pardonnez-moi. » Il lui explique toute la réalité de l'histoire. Il dit « Non, non, pas du tout. Ne crois pas parce que tu ne m'as pas écouté. C'est pour ça que tu as plein de galères alors que tu gagnes mieux ta vie. » Pas du tout. Il dit « Je vais t'expliquer c'est quoi la différence. C'est que maintenant, toi, quand maintenant tu étais avraire, c'est comme si tu t'es engagé à l'armée. Quand quelqu'un y a fait l'armée, pour certains qui ont fait l'armée, s'ils savent qu'on lui donne un uniforme, des vêtements, on lui donne une petite panassa tous les mois, un peu d'argent, on lui donne à manger, on lui donne un toit, etc., etc., etc. Maintenant, après X années, 3 ans pour les Israéliens, 1 an et demi pour les Routnikim, eh ben on lui dit, écoute, maintenant, t'as un choix. Soit maintenant, tu signes et pour faire ton service militaire, tu continues ton service militaire. Soit maintenant, tu dis, écoute, stop, ça y est, j'ai fait ce qu'il fallait et maintenant, tu retournes chez toi. Et s'il dit non, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, écoute, rends-nous ton arme, rends-nous tes vêtements, rends-nous, etc. Tout, maintenant, tu dois trouver un nouvel appartement, tu dois payer tes impôts, etc., etc. Il dit, c'est pareil, mon cher ami. Toi, maintenant, tu es rentré main dans la main avec Akadosh Baruch Hu. Tu es rentré dans l'unité d'Hachem. Hachem, il s'occupait de tout de toi. Il te donnait Parnassa, il te donnait ce qu'il faut tous les mois, etc., etc. Toi, à partir du moment où tu as dit, stop, Hachem, maintenant, je veux sortir de mon service militaire, entre guillemets, je veux en sortir de le système que tu as créé dans ton unité et je veux aller travailler. Donc, ne te plains pas, ce n'est pas une addiction, c'est normal. Maintenant, tu rentres sous le système de la nature. Et ça, on apprend d'une Mishnah. Qui dit « Kol amekabel ol Torah, ma'avirin ol malchut ve'ol derech eretz. » Tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève tous les problèmes de la malchut, donc c'est la royauté de la société, et tout le problème de derech eretz, c'est tous les problèmes de parnassa. Il faut choisir son camp. Soit maintenant tu rentres dans l'unité d'Hachem, donc Hachem s'occupe de toi comme, ce soldat, comme le soldat, ou soit maintenant tu veux fonctionner selon le système qu'il y a, de la nature qu'il y a autour de toi.
Selon cette Mishnah,
il faut être là-bas. Là-bas, on voit que le Rambam, il parle de ça, à savoir est-ce que maintenant, il y a ces deux systèmes complètement différents, différents. Chacun doit se connaître, même être avraire. Il faut être au niveau d'être avraire. Est-ce qu'on est prêt à s'asseoir toute la journée à étudier la Torah, à faire cette ishtadout, se casser la tête, c'est le cas de le dire. Parce qu'on aime ça, il faut aimer ça. Et d'un autre côté aussi, c'est que être avraire, travailler aussi, c'est peut-être être dans l'extrême travailler, c'est vrai que non, parce qu'on doit savoir apprendre à faire les mitzvot, à s'approcher d'Hachem, c'est ça le but d'un juif. Donc quand je répète comme on a dit au début, chacun doit se connaître, quelle voie suivre. Étudier une heure, deux heures, trois heures, la moitié de la journée, ou voire même toute la journée, et devenir un avraire. Maintenant, dernier point, c'est qu'il faut savoir que tout Ishtadlout doit sanctifier le nom d'Hachem. On a le Harizal qui nous explique sur le passage « Ubipne hatanu ganu martenu » à cause de nos fautes, Ubipne hatanu galinu martenu » à cause de nos fautes, nous avons été exilés. Là-bas, il explique c'est quoi ce verset-là. Il nous dit que, enfin, que de base, on avait le Bet Amikdash. Et le Bet Amikdash servait à dévoiler la présence divine. Tout le monde savait dans le monde entier, juif et non juif, que Hachem résidait dans le monde. Tout le monde voyait les miracles par les Kohanim, tout l'avoda qui existait au Beth Amikdash. Dès que le Beth Amikdash a été détruit, le Ham Israël a été exilé dans le monde entier. Et quel est le but maintenant du Ham Israël d'être dans le monde entier? C'est dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde entier. Et par où quoi ça passe? Par la Ishtadlut. Quand maintenant je fais des maasim, je dis, mais de toute façon, ce que je fais, c'est parce que c'est Hachem qui m'a demandé. Quand chaque matin, je vais ma prière à Tfila et je dis que je vais recevoir tout d'Akadosh Baruch Hu, c'est une manière de dévoiler Hachem dans le monde entier. Là-bas, la Gemara dans Brachot, elle nous dit encore plus fort que ça. Elle nous dit comme ça. Voilà, elle nous dit... Vamar Rabbi Chia Barami Mishemé Deula Gadol Anaga Vamar Rabbi Chia Barami Mishemé Deula Gadol Anéné Migio Yoter Mire Shamaim. Le pshat c'est quoi? C'est plus grand est celui maintenant qui arrive, c'est-à-dire qui fait des maasim pour arriver à sa parnassa, que celui qui est Yire Shamaim, qui craint Hachem. Comprends pas, quelqu'un qui est assis toute la journée en train d'étudier la Torah et qui a une crainte d'Hachem énorme. Comment ça se fait que lui, il est plus petit que celui maintenant qui va travailler, qui va faire sa ishtadlut pour avoir sa parnassa? Dessus, le Maharal de Prague, il nous donne une explication. Il nous dit qu'en fin de compte, que celui qui va travailler, il fait ce que demande Akadosh Baruch Hu. Et qu'à la fin du mois, même s'il ne va rien recevoir, il va se dire, de toute façon, moi j'ai fait ce qu'Hachem m'a demandé. Hachem m'a demandé d'agir de cette manière. Je le fais par amour d'Hachem. Parce que sinon, j'oublierai Hachem. Donc là, on parle de quelqu'un qui ne croit pas en Hachem. Donc même sa ishtadlout ne sert à rien. Donc celui qui fait sa ishtadlout et sait que le résultat vient d'Hachem, c'est que par amour qui va le faire. Et donc même si à la fin du mois, il ne va rien recevoir, il va dire, c'est pas grave, j'ai fait ce que Hachem m'a demandé. Mais par contre, celui qui craint Hachem, il a un niveau en dessous. Parce que lui, ce qu'il fait, il ne le fait pas par amour. Il le fait par crainte. Donc c'est pour ça qu'il nous dit que le Maharal, celui qui va travailler et qui fait sa ishtadlout, mais le résultat, il s'en fiche. Pas ce qu'il importe, c'est juste Hachem lui a demandé d'agir de telle manière, alors je le fais. Eh bien, il est plus grand que celui qui est assis dans le Beth Amikdash et qui craint Hachem et qui a peur de faire une faute parce qu'il se comporte mal. Mais non, dernier point, c'est ne pas courir après l'argent. Ne pas courir après l'argent. Et peut-être pour illustrer ça, on l'apprend du Malbim. Le Malbim nous donne la différence entre la manne. Deux fois, on voit dans la Torah qu'on part de la manne. La manne, c'est, vous savez de quoi je parle? Deux fois dans la Torah, on en parle. Une fois dans la parasha de Béchalar et une fois dans la parasha de Balotra. Le Malbim, il se dit, mais pourquoi la Torah nous en parle deux fois? Bon, ça, on a compris que Gojbuchou, pendant 40 ans, il leur donnait la parnassa, leur donnait de quoi se nourrir, et c'est tout. Pourquoi on a besoin d'en parler deux fois? Il nous dit que dans ces deux fois où on parle de deux manières différentes. Et il compare les deux manières. Il dit, premièrement, dans la parasha de Béchalar, quand ils ont demandé la manne, ils n'ont pas demandé seulement avec la manne, ils ont demandé aussi avec des cailles, avoir de la viande. J'en veux plus. D'ailleurs, j'en veux plus. Je ne veux pas que de la manne, ce n'est pas suffisant. Je veux plus, je veux aussi des cailles, je veux de la viande. Et là-bas, on voit que les versets nous disent que la manne, il ne la recevait pas dans le camp, il la recevait en dehors du camp. Donc, je devais me fatiguer pour recevoir, de prendre ma manne. Deuxièmement, on voit que la manne était recouverte de rosée. Et là-bas, les psoukis nous disent que tant que la rosée ne s'était pas enlevée de la manne, on ne pouvait pas accéder à la manne. Donc on devait attendre pour recevoir ce qu'on devait recevoir. Et troisièmement, c'est quoi? C'est que le surplus qu'il y avait fondait au soleil. Ça, c'est comme ça qu'elle est expliquée dans la parasha de Béchalar. Par contre, dans Béalotra, là-bas, on dit que la manne n'était pas demandé avec des cailles, avec de la viande. Du genre, je me suffis de ça, je veux pas plus. Voilà, je veux ma parnassa, c'est quoi? C'est juste, je veux ce que Kosh Bokhu m'a demandé, c'est la manne. Là-bas, Balotra, la parasha nous dit qu'ils recevaient la manne dans le camp. Ils n'avaient pas besoin de se fatiguer. Devant leur porte, ils ouvraient la porte, ils recevaient leur parnassa. Deuxièmement, elle était découverte. Pas besoin d'attendre que la rosée se séparait de la manne pour accéder à sa parnassa. Et troisièmement, c'est qu'elle était entièrement mangée. Là-bas, dans les psukim, ce n'est pas du tout précisé qu'elle fondait au soleil. Et en fin de compte, c'est deux manières de réagir. Est-ce que maintenant, je cours après l'argent, je veux plus? Et donc, Hachem, tu vas entrer dans ce système-là. Donc, il va te mettre des barrières, tu devras attendre, tu devras encore travailler davantage. Et que ce sera plus difficile pour recevoir ta panassa. Ou maintenant, tu sais, une confiance en Hachem, je fais ce que je dois faire. Et là, c'est la manne qui est décrite dans Parashat Balotra. Je reçois ce que je dois recevoir, je fais le strict minimum, et j'ouvre ma porte et je reçois ma parnassa. Voilà, donc j'espère que vous avez eu un peu j'espère que vous avez eu un aperçu sur ce qu'est la Ishtadlout. Et que chacun d'entre nous, maintenant, Bezrat Hashem, doit essayer de se connaître. Et c'est pas dingue qu'on ne peut pas se connaître quand on vient d'arriver à la yeshiva au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Il faut être un petit moment à la yeshiva. Il faut que ceux qui sont à l'extérieur qu'ils étudient un petit peu pour avoir des connaissances, se rapprocher d'Hashem, d'avoir une confiance en Hashem. Et après, ils pourront se poser la question, combien de ishtadout dois-je faire pour recevoir ma parnassa? Que Dieu vous bénisse. Shavua Tov.